Bonjour ou bonsoir. Nous sommes le 13 juillet 2024 et je m'appelle Éric Lucas, LUCAS, fondateur de l'association d'autistes Alliance Autiste. Et ce message a pour but de tenter de clarifier certaines choses concernant des accusations de racisme contre moi et par ricochet contre l'association Alliance Autiste. Ce qui me semble déjà assez débile comme raisonnement, mais on va en parler. Ce message, d'après ce que j'ai compris il y a déjà 2 ans, parce que c'est une histoire qui ressort encore 2 ans après, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir des personnes qui de toute façon vont utiliser tout ce que je vais dire contre moi, en retournant systématiquement les choses de manière tordue, et puis, je l'espère, d'autres personnes qui, bon, sont plus, disons, à la recherche de la vérité, avec moins de préjugés ou pas de préjugés du tout, et qui aimeraient quand même savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire, qui est une histoire de fou. Enfin, on voit même aujourd'hui sur Twitter, sur les comptes, le compte de l'association Les Dévalideuses, que les personnes qui commentent les tweets s'interrogent, enfin trouvent que c'est vraiment confus. Et justement, donc c'est pour ça que j'essaye de, enfin je souhaite donner mon point de vue, qui n'est pas seulement un point de vue, qui est aussi une narration des faits. Après, on me croit ou on me croit pas. Et bon, bref. Donc, je vais commencer. Il y a à peu près... Allez, je commence depuis le début. En 2019 et 2020, en tant qu'association Alliance Autiste, j'ai contacté l'association Clé Autiste, qui est une association française d'autistes, pour leur proposer de, très gentiment, hein, la main tendue, pour leur proposer de participer à notre rapport en construction pour le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Nous, on avait déjà une certaine expérience de ça, ce qui n'était pas le cas de Clé Autiste. Et donc, par naturel esprit de solidarité, de collaboration, voilà, on leur a tendu la main. Ils ont, au début, dans la première partie du rapport, c'est-à-dire, la première partie qui était un rapport sur la liste des points, c'est-à-dire la liste des questions, des sujets. On a fait un document ensemble, Alliance Autiste et Clé Autiste. Et puis tout ça, ça n'a rien à voir avec le racisme. On parle d'autisme et de handicap. Et jusque-là, il n'y a rien à dire. Ça, c'était en 2019. Ensuite, il y a eu l'étape la plus importante de l'examen de la France par le comité CDPH, qui nécessitait de faire un rapport alternatif. Donc on a repris contact, là c'était au début 2021, on a repris contact avec le Clé Autiste pour leur proposer, comme on avait fait la première fois, de participer au rapport alternatif qu'on allait faire. Et là, ils nous ont répondu par email, donc il y a des preuves, hein, une fois ou deux fois, ça je sais plus, mais au moins une fois en tout cas, qu'ils n'étaient pas intéressés pour participer à ce rapport pour le comité CDPH. Et l'explication, qui était d'ailleurs très louable, sincère, était qu'ils ne se sentaient pas suffisamment prêts pour ça, pas assez nombreux ou puissants, ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Donc, bon, très bien. Donc nous, on leur a proposé de les faire participer. Faire participer, c'est pas une expression très heureuse, mais il n'y avait pas tellement d'autres possibilités de les faire participer en incluant leur contribution, quoi, leur texte, dans notre rapport. Et c'est ce qu'on a. On a commencé à faire, je ne sais plus exactement, mais il y a 2 choses, oui, qu'on a mis dans notre rapport. Le rapport complet de 468 pages qu'on peut trouver sur le site de l'Alliance Autiste, où on a expliqué que ça nous avait été envoyé par Clé Autiste et que donc on incluait ces questions, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, dans tel et tel thème. Bon. Ça, c'était la construction du rapport qui avait commencé déjà en 2020. Ensuite, il y a eu la question de la participation physique aux réunions. Bon, pour le coup, à cause du Covid, ça se faisait à distance. Mais enfin, c'était quand même une participation où on voyait la tête des gens, etc. Entre-temps, fin 2020, début 2021, on avait pris contact avec l'association AFFA, l'Association française des femmes autistes, notamment Marie Rabatel, avec qui on n'a jamais eu aucun problème, et qui nous a très gentiment indiqué certaines associations qui pourraient être intéressées, parce qu'on cherchait justement à faire des choses ensemble, à pas être isolés, à faire des choses de manière groupée, puisque force, bah, l'union fait la force, quoi. Et elle nous avait indiqué certaines associations, dont notamment l'association Handisociale avec Odile Morin, qu'on connaissait pas. Enfin bon, moi j'avais déjà entendu parler d'Odile Morin, parce que bon, une personne d'un certain âge en fauteuil roulant qui va braver la police et tout, forcément ça passe pas inaperçu et on risque pas d'oublier. Donc j'avais trouvé absolument formidable cette personne, héroïque, enfin tout. Et j'étais très content d'être en relation avec elle. Donc, on a discuté, etc. Et au fil des discussions, je lui ai parlé aussi de ce qui se fait avec le comité CDPH, avec les rapports et tout. Et ça l'a intéressée, elle a dit qu'elle voulait participer. Donc on l'a... elle aurait très bien pu le faire sans nous. Mais on a quand même, disons, aidé à monter dans le train, si on peut dire ça comme ça. Et Odile Morin a fait son rapport. Enfin, le rapport de l'association Handisociale. On a... ça, c'était l'été 2021. Dans une réunion... alors, je suis pas sûr des détails, mais il me semble bien qu'on a été surpris de voir la présence d'un représentant, ou même plusieurs, du clé autiste, puisque, alors que justement, ils avaient dit qu'ils voulaient pas participer. Mais bon, c'est pas grave, très bien, s'ils participent, c'est encore mieux. Et donc, il y avait le clé autiste. On n'est pas du tout dans des histoires de racisme. Hein. Le Handisociale avec Odile Morin, et puis aussi une autre association qui s'appelle le Collectif Handicap Autonomie. Un nom, je ne me souviens plus exactement. Avec deux ou trois personnes. Il y en a une, je crois, qui est maman d'un autiste. Enfin bref. Et on était donc quatre qui faisaient un joli petit groupe, en fait. On s'entendait pas forcément sur tout, mais peu importe. Le but, c'était de défendre certaines choses, c'est-à-dire d'aller expliquer les problèmes qu'il y a pour les personnes handicapées, d'aller expliquer ça au comité CDPH de l'ONU. Et on l'a fait, et ça s'est très bien passé. Au niveau de l'Alliance autiste, nous, on a insisté sur un point particulier, très important, qui est ce qu'on appelle le vice central de l'article 1er de la loi de 1502, qui, cette loi, la manière dont elle est rédigée, elle est assez subtile, parce que la manière dont elle est rédigée, elle permet automatiquement de faire passer les organisations, les associations gestionnaires d'établissements et de services, comme étant représentatives des personnes handicapées. Ce qui est absolument fallacieux, c'est impossible. Même quand elles placent dans leur présidence associative des personnes handicapées, de toute façon, le lobby du médico-social, comme on l'appelle nous, il est de toute façon, il est dans le registre du conflit d'intérêts, parce qu'ils peuvent pas prétendre en même temps défendre les droits des personnes handicapées qu'ils hébergent ou qu'ils servent en tant que service, alors qu'en même temps, de toute façon, ils sont tenus par le poids du salariat, par le poids des employés et des directeurs, hein, surtout. Ils servent et ils hébergent 2 millions de personnes en France, et ils en emploient autant. Donc faut pas me dire qu'ils représentent les personnes handicapées, c'est pas vrai. Ils les représentent peut-être légalement, malheureusement, à cause de cette loi, justement, qui est très vicieuse, mais ils peuvent pas le faire d'une manière qui serait dépourvue de conflit d'intérêts. En tout cas, bon, pardon si l'explication n'est peut-être pas très, très nette, mais dans notre rapport, en tout cas, je peux vous dire qu'on a vraiment insisté là-dessus. Toutes les parties, c'est-à-dire correspondant à tous les articles principaux de la Convention, se concluaient invariablement par cette conclusion, parce qu'en plus, c'est vrai, on expliquait que tous les problèmes, ou presque tous les problèmes qui se passent, en France, pour les personnes handicapées, au niveau des politiques publiques, hein, viennent précisément de cet article premier et du vice qu'il y a dedans, qui a plein d'effets pervers, en particulier sur l'accessibilité, puisque tout est C'est le lobby du médico-social, c'est-à-dire cet empire économique, ce secteur économique de la France. 2 millions de gens qui travaillent. Je sais pas combien il y a de gens qui travaillent en France, mais enfin, c'est un pays qui est quand même pas très grand. Il y a 62, 65 millions, 67 millions d'habitants. 2 millions de gens qui travaillent, ça fait beaucoup. Quand on voit que s'il y a la moindre entreprise de 50 personnes dans la plus profonde vallée qui menace de fermer, il y a la moitié du gouvernement qui se précipite à son chevet, et il y a je ne sais pas quoi qui est fait pour éviter. Donc 2 millions de personnes. Les gens, ils font même pas de commentaires, en fait. Ils sont même pas pétrifiés par rapport à une idée de remettre ça en question. C'est juste pas pensable. Et la question de la désinstitutionnalisation, nous, on n'est pas très connus, mais peu importe, mais on a des sources. On a fait en 2015, on a lancé une lettre commune pour faire venir la rapporteure spéciale des droits des personnes handicapées de l'ONU, Catalina de Vandas Aguilar. J'ai pas la prétention de dire qu'elle est venue que par rapport à notre lettre, mais c'est vrai que notre lettre, elle a forcément appuyé sur le besoin de faire cette visite en France. Tous les gens qui écoutent ça, normalement, devraient savoir ce que c'est que cette visite en France. Et s'il y a encore quelqu'un qui écoute. Donc, on a fait cette lettre commune. C'est nous, l'Alliance Autiste, qui avons fait cette lettre avec presque une cinquantaine d'autres associations ou entités. On s'est pas mis en exergue. On a mis notre logo. Bon, c'est vrai qu'il est en premier, mais ça, c'est à cause de l'ordre alphabétique. Mais on n'a pas... on a essayé de faire les choses de la manière la plus juste possible. Et ça s'est très bien passé. Et suite à ça, Catalina de Vandas Aguilar, elle a fait ce que vous savez. Elle a fait sa visite, elle a fait son rapport, etc. Et dans son rapport, tout le monde sait qu'elle a eu des propos très critiques, très sévères par rapport à la question des établissements avec hébergement, où elle a écrit qu'il n'existe aucun établissement qui serait pas maltraitant, ou je me souviens plus des termes exacts. Ça a fait très peur, évidemment, aux gens du lobby, du médico-social. Nous, dans nos recherches pour faire nos rapports, on a trouvé des documents de ces gens du lobby, l'UNAPI, je sais plus quoi, qui mentionnaient le mot désinstitutionnalisation. Sauf que ces documents, ils ont disparu d'Internet. Sauf que nous, on a fait des copies, qu'on a toujours, et qu'on a mis les liens des copies dans nos rapports. Et bon, je vais pas entrer trop dans les détails, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que suite au rapport de Madame Catalina de Vandas Aguilar, il y a eu, là, bon, j'ai pas les preuves, mais c'est extrêmement crédible, il y a eu une réunion de ces gens du lobby, en ce qui concerne l'autisme, hein, je connais pas tout, les autres handicaps, et ils se sont bien mis d'accord en disant qu'ils voulaient pas entendre parler de désinstitutionnalisation. Il y a même un enregistrement là-dessus, et la personne qui a enregistré, elle a eu les pépettes, comme on dit, et elle a jamais voulu le partager, en tout cas pas pour nous. En tout cas, ils se sont mis d'accord, si je me souviens bien, donc c'était en 2017, pour ne plus entendre parler de ça, et ils l'ont vraiment fait. C'est-à-dire que le mot a disparu, et ça vous pouvez chercher. Le mot désinstitutionnalisation à l'époque, il apparaissait, selon nos recherches, seulement deux fois. Une fois dans un truc pour l'Europe, c'est-à-dire en dehors de la France, et une autre fois dans un truc pour l'ONU. Mais en France, jamais. Ben oui, quand on veut éviter un souci, on commence déjà par éviter de le nommer, ce qui permet de faire en sorte que ça n'existe pas. L'idée même n'existe pas. En 2021, juste pour préciser cette question de cette omerta, quoi. En 2021, lors de la première ou deuxième réunion au mois d'août, hein, avec le comité CDPH, Sophie Cluzel, quand elle a été interrogée par le comité sur le thème de la désinstitutionnalisation, elle avait déjà préparé sa réponse, évidemment, et elle a dit, alors je sais pas si elle a osé prononcer le mot désinstitutionnalisation, mais en tout cas, elle a répondu que pour eux, en France, il n'y a pas de question d'institutionnalisation ou de désinstitutionnalisation, et que eux, ils préfèrent parler du choix des personnes. Et ils ont leur parade, c'est cette question de choix des personnes. Et c'est très malin. Parce qu'en fait, il y a une pression immense de la part dans l'autisme. Il y a une pression immense de la part des parents pour qui supplient, qui implorent malheureusement pour qu'on mette leurs enfants ou même leurs enfants adultes dans des établissements. Il y a même eu un maire qui a fait une grève de la faim pour obtenir une place pour son enfant autiste en IME. Alors, il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Mais bref, bon, après, il ne faut pas non plus juger. Bon. Mais le problème, c'est que la situation de la société française, elle est tellement mauvaise en termes d'accessibilité que malheureusement, les parents n'ont pas d'autre idée quoi, que ces fameux établissements. Parce qu'il y a rien, parce que ça m'énerve leurs enfants, quand ils essaient de mettre leurs enfants à l'école ou quoi que ce soit, ou même dans le bus, dans les magasins, etc., ça se passe mal. Et donc pour eux, la seule solution, c'est de mettre leur famille, leurs enfants sous cloche, quoi, dans cette horreur de la non-vie. C'est de la non-vie, quoi, dans ces établissements. Et en gros, c'est choisir entre la peste et le choléra. Si on dit que la société française qui n'est pas inclusive, ce serait la peste, il préfère encore choisir le choléra, qui est l'institutionnalisation. Et c'est de ça que nous parle Sophie Cluzel, elle parle du choix des personnes. Mais enfin, c'est un choix qui est biaisé. C'est comme les pays totalitaires où il y a, vous savez, les présidents autoritaires là. On sait très bien qu'ils ont déjà tout fait pour éliminer tout rival potentiel ayant des chances de gagner une élection. Donc au moment de l'élection, ils gagnent avec 91%, etc. Mais enfin, et ils disent, vous voyez, on a été élus démocratiquement. Mais c'est pareil, c'est le même genre de mauvaise foi. Bon, bref, là je m'embarque un peu trop dans le... Enfin, c'est pas trop, le sujet c'est ça, le sujet c'est le handicap et les vices profonds des politiques françaises. Alors... Je continue sur l'article premier. Nous, on a énormément insisté là-dessus. On a eu des discussions poussées avec Jonas Rouskous, que vous connaissez. Récemment, je ne sais plus pour quel motif exactement, j'ai fait un copier-coller de toutes les discussions écrites qu'on a eues par Messenger en les collant dans un document A4 avec des petites marges. Ça faisait 99 pages A4, donc bon. Enfin, le pauvre, il a reçu beaucoup d'informations, mais en tout cas... Il nous a bien dit qu'il avait bien compris, lui et ses collègues, ils ont bien compris ce problème de l'article premier, qu'ils ont bien compris que c'est très grave, et il n'a pas fait que nous le dire à nous, il l'a bien expliqué au début, hein, quand il a commencé, au début de ce qu'il a commencé à dire à la France. Il a commencé par des louanges, c'était pas évident à dire, à trouver, même... Dans des réunions privées qu'on a eues avant, il nous a dit, avec un peu d'humour, dans le style, en s'essuyant le front, en disant « bon, maintenant, il va falloir que je trouve des arguments positifs à dire à la France pour commencer mon discours ». Ça, c'est des confidences, vous y croyez, vous y croyez pas, j'ai pas de preuves pour ça. En tout cas, il a commencé par quelques points positifs assez mineurs, et ensuite, quand il a commencé à parler des problèmes, il a tout de suite embrayé là-dessus. Sur cette histoire d'article premier, qui est fallacieux. Alors il a expliqué, dans les choses écrites sur le même thème que le comité écrit, ils ont même carrément fait des copier-coller de ce que nous on a mis dans notre rapport. C'est factuel, ça se vérifie, on peut le vérifier. Hein. Les rapports, ils sont publiés, tout ce que je dis, ça se vérifie là. Et je dis ça, c'est pas pour se faire mousser, c'est pour dire que quand même, les gens, c'est facile d'aller s'acharner sur... Bref. Donc en tout cas, il y a eu cette question de l'article premier qui est une chose vraiment très importante. Nous, on a trouvé ça... Alors il y a certainement des gens qui l'ont trouvé avant nous, mais ça on le sait pas. Mais en tout cas, ça n'avait jamais été dit de manière officielle. Comme on a trouvé que c'était vraiment important pour être sûr... Bon, Jonas Rouskous, il nous avait bien écrit, vous inquiétez pas, on a bien compris. Mais bon, pour être sûr de vraiment bien enfoncer le clou avec ce problème, on a écrit à nos collègues, hein, du groupe de 4 associations, où je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas d'histoire de racisme, je ne sais pas quoi, en leur disant, il y a cet article, il y a ce problème, ça serait bien si vous aussi, vous alliez rajouter parler de ça, quoi, pour être sûr que ce soit vraiment bien pris en compte. Et ça a marché. Chacun y est allé de son couplet pour insister sur ce problème de l'article premier. Je me souviens même qu'Odile Morin m'a dit ou écrit quelque chose du genre, ah mais oui, mais c'est vrai ça, mais en fait, oui, cet article premier, on a... C'est des choses qui sont... C'est tellement énorme, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Ils l'ont mis tout de suite. Ça a été fait par des associations de parents, cette loi, indirectement. Ils l'ont mis en premier. C'est un article d'auto-verrouillage, en fait, de leur système. Et c'est tellement énorme qu'on le voit même pas. Donc nous, on a vraiment démasqué ce truc. Qui n'était pas dit. Une fois qu'on l'a vu, c'est évident, mais personne ne le voyait. En résumé, pas personne, mais en tout cas, c'était pas publié de manière officielle. Là, ça a été vraiment déballé à la face du monde. Ensuite, ce que je dis, il y a des preuves hein, de nos échanges. WhatsApp, email. Après... il y a eu après l'examen, jusqu'à l'examen par la CDPH, donc qui s'est passé au mois d'août 2021, on s'entendait bien et on aurait dû continuer. Sauf que il y a eu un problème avec la CNCDH, la Commission nationale des droits de l'homme française. Elle lors d'une allocution quoi, d'une déclaration au début. Cette déclaration, elle devait être faite par sa présidente. Je n'oublie plus son nom. Sauf que tout le monde a eu la surprise de voir qu'en fait, c'est pas la présidente qui a parlé, mais la présidente de APF France Handicap. C'est une très très grosse association du lobby du médico-social, que tout le monde connaît. Et même la présidente du comité CDPH, elle était surprise, parce qu'elle a dit, voilà, elle a dit le nom de la personne, donc de la CNCDH qui allait parler, et elle s'est rendue compte qu'en fait c'était quelqu'un d'autre. Donc on a tous été choqués par ça, par le fait qu'en fait la CNCDH s'exprime par l'intermédiaire de la présidente d'APF France Handicap, c'est-à-dire du lobby. Donc on a fait une lettre, tous les quatre, on a commencé à faire une lettre commune, pour s'insurger, quoi, hein, poliment, contre ce problème. On était d'accord, on a fait une lettre commune, donc avec Word partagé, etc. Donc tout allait bien. Jusqu'au dernier moment, il y a eu quelqu'un, et je crois bien que c'est Odile, qui a décidé de rajouter une phrase à la fin. Moi j'appelle ça une phrase assassine, qui ruinait tout, parce que c'était une menace. Il n'y avait pas besoin de ça. Et cette phrase, c'était, en résumé, vous avez 10 jours ou 15 jours pour nous répondre, sinon on publie cette lettre. Alors vraiment, c'était particulièrement maladroit comme phrase. Et ça risquait, c'était la garantie qu'ils n'allaient pas nous répondre. Donc moi, quand j'ai vu cette phrase, j'ai dit, ben non, nous, on ne peut pas signer un truc aussi absurde et aussi maladroit, où là, on est sûr qu'ils ne vont pas nous répondre avec un truc comme ça. Bonjour, la menace. Oh là là, on va publier la lettre. Oh là là, on a peur. Et c'est vraiment, enfin bon. Donc nous, on n'était pas d'accord. Donc moi, en tant que responsable de l'Alliance Fétiche, j'ai dit, mais non, il faut qu'on enlève cette phrase. Alors j'ai essayé d'argumenter et tout, mais bon. J'étais avec des personnes qui... Enfin, il faut quand même reconnaître que dans toutes ces histoires, l'argumentation, c'est pas un truc que les gens aiment bien. Et on m'a dit, en gros, et ça c'est Thibaut Corneloup de Cléotiste, qui m'a dit, pour couper court à toute conversation, qui m'a dit, écoute, de toute façon, c'est simple, on est quatre, on est trois pour cette phrase, et toi, t'es tout seul. Donc, on la laisse. Bon, si c'est comme ça que vous voyez le travail collaboratif, bah, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on peut pas co-signer une lettre comme ça. C'est débile. Donc, on la co-signe pas. Après, l'Alliance Autiste m'a accusé en tant que représentant de l'Alliance Autiste d'être parti, même en me disant que c'était dommage. Mais enfin, j'avais pas le choix. Ils m'ont dit que c'était ma faute si j'étais parti. Enfin, ouais, c'est tout le temps le retourner les choses, quoi. Et évidemment qu'ils n'ont pas reçu de réponse. Enfin, en fait, j'en sais rien, parce que j'étais plus dans le groupe. Mais alors, s'ils ont reçu une réponse, alors là, je veux bien l'avoir. Hein. Mais pourquoi je dis évidemment? Parce qu'en plus, de toute façon, après, il y a une personne responsable de la CNCDH qui nous a dit ou écrit que, de toute façon, c'était bien évident qu'avec une menace comme ça, ils risquaient pas de répondre. Et le plus gros dans tout ça, c'est que la lettre qui a été publiée, j'ai vu ça il y a pas longtemps, on est en 2024, mais j'ai vu ça sur le site de Handy Social, c'est que cette fameuse lettre à laquelle nous, on n'a pas voulu participer, en fait, elle contenait pas la phrase assassine qui était à la fin, qui était le problème. Est-ce que la lettre a été envoyée avec cette phrase? Ça, j'en sais rien, mais la lettre publiée n'avait pas la phrase. Je me suis même demandé s'ils n'ont pas fait exprès de rajouter cette phrase à la fin, au dernier moment, la veille de l'envoyer, juste pour en sachant que nous, de toute façon, que l'Alliance Autiste, on pouvait pas participer à un truc comme ça pour nous kicker, quoi, pour nous faire sortir. Genre ça, je peux pas non plus entrer trop dans les suppositions, parce que c'est le problème principal dans toutes ces histoires, c'est les accusations sans preuve. Maintenant, Ça, c'est ce qui s'est passé. Alors ensuite, ils nous ont... la CHA, non, on n'a jamais eu de problème avec la CHA, ça a l'air d'être des personnes très, très, très droites, quoi. Mais les autres se sont pas gênés pour nous traîner dans la boue à la moindre occasion. Et c'est ensuite qu'on arrive à cette histoire de racisme. Dans mon premier message, moi, chaque fois que je suis obligé de parler de racisme, me concernant, c'est un truc qui est surréaliste, parce que moi, j'ai rien à voir avec ces questions. Mais dans mon message audio principal d'il y a 2 ans, quand on m'avait accusé, parce que c'est toujours la même histoire, il y a un seul truc, hein, j'avais commencé sur un ton un peu moqueur, et automatiquement, ça avait été mal interprété. C'est-à-dire que j'avais eu un ton de mépris, en prononçant le mot racisme, peut-être j'avais eu un ricanement ou quelque chose comme ça, et automatiquement, mes contempteurs, mes adversaires ou contemptrices, avaient tout de suite dit que voilà, c'était la preuve que, enfin une des preuves, parce qu'après tout ce que j'ai dit, on m'a dit que c'était des explications qui sonnaient comme un aveu, je sais pas quoi, et on m'avait dit, comme je parlais du racisme en ricanant ou quelque chose comme ça, ça signifiait que je méprisais en fait le problème. La question du racisme, alors que c'est pas ça du tout. Ce qui me faisait rire, c'était... Il n'y a rien de risible dans le racisme, évidemment. Ce qui me faisait rire, c'était l'idée qu'on puisse... pas m'accuser, mais l'idée qu'on puisse croire que je suis raciste. Et tous les gens qui me connaissent, chaque fois qu'ils entendent parler de cette histoire, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est n'importe quoi. Alors, on va aller un peu plus loin. Maintenant, on va voir quelle est ma faute. Parce que c'est vrai, enfin, c'est pas une faute, mais... Il y a quelque chose qui n'est pas du racisme, mais il y a quelque chose que j'ai fait qui ça aurait été mieux si je ne l'avais pas fait. Mais bon, vous allez comprendre. Suite à toutes ces histoires-là dont j'ai parlé avec les associations, la lettre, la CNCDH et tout ça, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais quelques mois plus tard, fin 2022, si je me souviens, non, fin 2021 ou début 2022, sur Twitter, alors moi je ne suis pas très branché Twitter, c'est ça aussi un peu le problème. J'ai eu un tweet de Thibaut Corneloup du Cléautiste, avec qui on avait souvent eu des prises de bec. D'ailleurs, on avait eu des prises de bec bien avant que je leur propose à nouveau de venir. Moi, je suis comme ça. C'est normal que... C'est logique que parfois, on s'entende pas, on se comprenne pas, il y a des malentendus, il y a des conflits et tout. Mais enfin, si à chaque fois, il fallait se faire la guerre... Alors qu'en fait, on est du même côté, du côté des opprimés, pour résumer. À chaque fois qu'on ne se comprend pas ou qu'on a des frictions personnelles, s'il fallait que ça devienne définitif, c'est plus la peine, quoi. On peut pas avancer comme ça. Donc moi, je suis comme ça, j'essaie toujours d'oublier, quoi. Et puis de revenir, de recommencer. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'année dernière, je l'ai encore rappelé Thibaut Corneloup en disant « Mais attends, mais on va discuter, quoi, c'est absurde tout ça ». « Ah non, ah, je peux pas discuter avec toi parce que t'es raciste !» C'est vraiment, mais c'est puéril, quoi, comme position, comme raisonnement. Les gens partent du principe d'un truc qu'en fait, je trouve plus les mots, qui est, pour eux, c'est sûr, mais ils veulent surtout pas discuter là-dessus si on leur dit que c'est pas vrai. Ils veulent pas discuter, comment dire, ils ont pas le courage, en fait, d'envisager la possibilité que peut-être ils se sont trompés. Et j'ai remarqué que ça, c'est un truc qui existe beaucoup en France. Les gens ont des idées sur quasiment tout, mais des idées bien arrêtées, quoi, et quasiment immédiates. C'est presque un sport, quoi. N'importe quel sujet qui apparaît sur n'importe quoi, n'importe quel truc, la plupart des gens vont dire « Ah, ça, c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et puis c'est tout. » Et voilà, ils ont leur verdict, et puis après, c'est gravé dans le marbre pour toute la vie. T'as beau leur mettre le nez dans leur caca en disant « Mais non, enfin, tu vois bien que c'est pas... » Non, c'est comme ça. C'est comme le nuage de Tchernobyl, c'est comme, enfin, tout le reste. Donc, l'histoire de masques, de Covid, de tout ce qu'on veut, de toute façon, et on a beau leur dire... Enfin, tu vois bien que c'est exactement le contraire. Et voilà, non, c'est bien ce que ça. Eh ben, c'est pareil. C'est fou quand même. Hein. C'est un mélange d'arrogance et de lâcheté. C'est de la lâcheté de pas accepter de discuter parce qu'en fait, parce qu'ils savent que ils se doutent quoi, qu'on va parvenir à leur démontrer qu'ils se sont trompés. Donc bon, bref, ça c'était une généralité. Ensuite, où en étais-je? Ouais, Twitter. Donc avec Thibaut Corneloup, on avait déjà eu des prises de bec, et puis depuis des années en fait. Et un jour, je tombe sur un tweet Et là, je me demande si c'est pas un truc, c'est pas une sorte de d'hameçon comme ça qui lance pour attraper des gens. Et il avait écrit tout simplement « Le racisme anti-blanc n'existe pas ». Bon, a priori, on voit un tweet, on passe, quoi. On va laisser s'arrêter à toutes les conneries. Mais quand on est autiste, on n'aime pas... C'est difficile de rester indifférent comme ça, insensible, quand on voit des choses qu'on estime que c'est pas vrai. Donc, j'ai fait l'erreur de répondre. Enfin, c'est pas une erreur, mais bon, en tout cas, j'ai répondu. Et j'ai répondu, bah si, ça existe. Moi, perso, j'ai des exemples vécus. Après, il y a eu toute une discussion, alors je me souviens plus des détails, mais en résumé, il y avait une sorte de malentendu, parce que moi, quand je parlais de cette notion de racisme anti-blanc, en fait, je faisais référence à des comportements racistes anti-blancs, qui sont une réalité, quoi. C'est pas... Le fait de dire ça, c'est pas la preuve qu'on est raciste. C'est quoi, ces résumés ? C'est n'importe quoi. C'est vraiment de l'amalgame. C'est tout simplement des faits. Les comportements de certaines personnes qui sont pas blanches, c'est bête de dire ça, mais enfin, c'est les faits. Et en tout cas, parce que justement, qui vont nous accuser ou nous insulter, parce que bon, moi, j'ai la peau blanche, très claire, donc ils vont m'accuser et m'insulter précisément à cause de mon apparence, de ma couleur, de mon air, quoi, un peu allemand, on va dire ça comme ça. Ça m'est arrivé plein de fois, puis il n'y a pas que moi. Qui m'accuse, qui m'insulte, qui me ceci, qui me cela, déjà, par rapport à mon apparence, qui ne me connaissent pas. Je monte dans un bus, ils ne savent pas qui je suis, rien, quoi. C'est uniquement par rapport à mon apparence et à ma couleur. Mais si ce n'est pas des comportements de racisme anti-blanc ou anti-français, peut-être, qu'est-ce que c'est ? Dites-moi. Après, j'imagine déjà des gens qui entendent ça, qui vont dire « Ah, ben voilà, il vient de nous avouer qu'il est raciste. » Mais c'est pas être raciste que de dire que l'eau ça mouille et que les oiseaux volent dans le ciel. Quand quelqu'un t'insulte ou t'accuse de je sais pas quoi en disant explicitement ces arguments, si on peut appeler ça des arguments, explicitement c'est à cause de ta couleur ou de ton origine, de ton ethnie et tout, qui pour le coup est blanche, arienne, comme ça, comme on dit, et tout ça, si c'est pas un comportement raciste, anti-blanc ou anti-français ou quelque chose comme ça, c'est quoi ? Non, mais il y a un moment où il faut arrêter d'être de mauvaise foi quand même. Donc moi, c'est tout. C'était simplement par rapport à ça. C'était juste pour dire ça, que c'est pas vrai, ça existe. C'est tout. Moi, c'est pas que je m'en fous, mais bon, c'est pas dans mes préoccupations principales, ces questions. On peut pas tout faire. Et au bout d'un moment de discussion, si on peut appeler ça des discussions, parce que sur Twitter, on a fini par arriver à une conclusion qu'en fait, lui, il parlait pas de ça, il parlait du racisme systémique. Et on est arrivé à une conclusion, comme quoi, en France, parce que son truc, c'était en France. En France, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Et sa conclusion, en fait, c'était qu'en France, il n'y a pas de racisme systémique anti-blanc. Ben évidemment. Évidemment qu'il n'y a pas de racisme. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Puisque c'est un pays, c'est la France, quoi, où c'est majoritairement dirigé par des gens qui sont blancs, et ainsi de suite. Le système, il est fait comme ça. Je dis bien majoritairement. Donc évidemment qu'il n'y a pas de racisme systémique anti-blanc, c'est une évidence. Donc là, je sais même plus... Enfin, c'est très confus, quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans ce fil de tweet... Il y a des gens qui sont venus faire des commentaires. Et c'est là où ça commence à merder. Il y a des gens qui sont venus faire des commentaires en parlant de telle personne qui avait fait telle saloperie, de tel truc, tel crime, etc. Et qui, quasiment tout le temps, c'était des personnes racisées, comme on dit, pas blanches. Donc, effectivement, j'aurais dû me douter que les discussions avec... Enfin, le peu de discussion avec ces personnes qui sont venues s'incruster en rajoutant des commentaires, au départ, c'était des commentaires qui venaient appuyer le fait qu'il y a bien des comportements racistes anti-blancs, qui d'ailleurs sont pas... Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un gros problème. Hein. C'était juste simplement, je voulais juste rétablir une vérité, c'est tout. Bon, alors, se faire traiter de fromage blanc dans le bus, enfin, bon, c'est quand même pas du tout un gros problème. Mais bref, il y a des gens qui sont venus rajouter de l'huile sur le feu, qui, eux, qui étaient certainement des vrais... Enfin, j'en sais rien, mais probablement des vrais racistes. Et moi, j'ai pas... alors, j'aurais dû faire plus attention à la tournure effectivement dans le registre du racisme effectivement que prenait cette discussion quand des gens sont venus rajouter des choses. Et il y a eu quelqu'un, alors c'est là que ça commençait à vraiment merder, c'est qu'il y a quelqu'un qui a mis un tweet relatant l'histoire d'une, enfin un événement quoi, d'une personne qui avait fait plein de, enfin vraiment, je crois 77 crimes, et ça m'avait révolté ce que j'avais lu. Alors et surtout, bon, il avait attaqué une policière municipale, qui d'ailleurs, pour le coup, était pas blanche, si je me souviens bien, mais enfin bon. Ce qu'il faut comprendre dans toute cette histoire, c'est que moi, je ne fais pas, je fais pas cette fixation sur les différences d'ethnie, de couleur de peau, même de savoir si les gens sont des hommes ou des femmes. Et voilà. Je peux comprendre que les personnes qui sont dans l'activisme par rapport à ces causes soient beaucoup plus sensibilisées à ça et qu'elles vont, évidemment, à chaque fois, chaque détail, vont essayer de détecter, de faire une sorte de chasse à leurs adversaires, quoi. Mais on n'est pas obligé, quand même, d'être constamment dans la différenciation ou dans la discrimination au sens légal du terme en français, hein, qui est au sens de la loi française. Le mot discrimination, il n'a rien de répréhensible. C'est simplement le fait de faire une différence entre telle et telle catégorie de personnes. Ce qui est répréhensible, c'est le fait de refuser un accès ou de faire quelque chose de préjudiciable sur la base de cette discrimination. Regardez, cherchez dans les articles de loi, vous allez voir. Il y en a deux différents. Bref, donc d'être tout le temps dans ces questions de discrimination, parce que c'est ce qui est fait par mes adversaires et puis par beaucoup de gens, tout le temps... opposer en fait les gens, faire des clivages entre des gens qui en demandaient pas tant. Et c'est ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette histoire. C'est que moi, je suis pas comme ça. J'ai le droit quand même. Je suis pas raciste ou dans cette sorte de, je sais pas, de petitesse, quoi. Qui fait des classements, je sais pas comment dire. Des classements qui opposent les gens, qui franchement on est tous des êtres humains avec nos défauts, nos qualités, on essaie de faire ce qu'on peut, enfin il y en a qui essaient de faire ce qu'ils peuvent surtout pour eux, d'autres qui essaient de faire ce qu'ils peuvent surtout de manière plus altruiste, et puis c'est tout. Il y a des gens qui naissent de telle ethnie, telle couleur, qui deviennent grands, qui restent pas grands, qui sont hommes, femmes ou entre les deux ou les deux ou enfin ou qui naissent et puis qui sont pas des humains, qui sont des animaux ou des plantes. Mais et alors? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que constamment on s'oppose à cause de nos différences? C'est des choses qui me dépassent. Donc moi, c'est dans mon état d'esprit, il est pas constamment à l'affût de savoir si telle personne, elle est blanche, pas blanche, homme, femme, homo, pas, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça, là. Ma réaction, qui effectivement était assez violente, ma réaction par rapport à cette description de toute cette histoire qu'avait fait Socio, elle n'était pas du tout par rapport au fait qu'il soit... Alors c'est vrai que son nom commençait par M apostrophe, automatiquement, sans doute, je l'ai vu, mais comme c'est pas une chose importante pour moi, j'ai pas... ça a pas... Que son nom soit d'origine ou de consonance, de sonorité africaine, parce que c'est certainement le cas, ou pas, franchement, pour moi, ça n'a aucun impact dans ma réaction. Après, il y a toujours des gens qui vont penser que ce que je dis, c'est pas vrai, que c'est pas sincère et tout. Mais enfin, moi, je sais quand même. Ce qui est dans ma tête, je le sais quand même. Et j'ai eu une réaction quand j'ai lu tout ce qu'il avait fait, qu'il avait attaché des personnes âgées pour les dépouiller, etc. J'ai une réaction qui était effectivement très exagérée, où j'ai écrit deux balles dans la tête. Voilà. J'ai écrit deux balles dans la tête. Alors effectivement, quand j'y repense, c'est vrai que c'était très fort, même si la personne, elle a fait tout ce qu'elle a fait, qu'elle a 77 crimes à son actif, qu'elle a essayé, je crois même qu'il a tiré, je suis pas sûr, mais enfin, ouais, sur une policière municipale, puis c'est juste un exemple, qui attache des personnes âgées chez elle pour, c'est quand même pas une raison, qui c'est pas à moi de le dire d'ailleurs, et puis la peine de mort n'existe plus, et c'est très bien. Mais c'est une réaction, c'est une phrase, enfin, c'est même pas une phrase, puisqu'il n'y a pas de verbe, c'est une réaction d'indignation, à l'emporte-pièce, comme on dit, qui était effectivement très exagérée, qui était très forte, qui était violente, mais il faut pas prendre les choses à la lettre. C'est pas parce que j'ai écrit ça que automatiquement j'ai imaginé qu'il faudrait absolument aller tuer cette personne ou je sais pas quoi. C'est une réaction d'indignation exagérée, comme tout le monde le fait tous les jours. Peut-être pas comme ça, mais on a tous des manières pour exprimer un dégoût, pour exprimer une révolte. On peut utiliser des mots qui sont beaucoup plus forts que la situation ne le justifie. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est qu'en tout cas, c'était pas du tout ma réaction. Elle a rien à voir avec l'origine de la personne. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qui, à mon avis, est incompris. Et les personnes qui veulent absolument voir des racistes partout où ils peuvent, où elles peuvent, bon, vont pas me croire. Enfin bon, tu peux pas grand chose. Mais ce qui est paradoxal dans toute cette histoire, c'est que je pense que c'est précisément parce que je suis pas raciste, vraiment, c'est vraiment fondamentalement pas raciste, que j'ai pu écrire ça. C'est justement parce que je fais pas ces discriminations. Donc bon, j'écris ça sans réfléchir, c'est vrai, mais en même temps, peut-être que si j'avais eu à l'esprit la question ces différenciations, ces distinctions qu'on est sommé de faire parce que telle personne, elle est ci, elle est ça, elle est un homme, elle est une femme, elle est homo, elle est pas hétéro, je sais pas quoi. Alors là, bon, oui, effectivement, j'aurais pas écrit ça, hein. J'aurais fait attention. Mais non, j'ai écrit ça parce que c'était une réaction exagérée d'indignation, quoi. Mais qui n'a rien à voir avec le fait que la personne, elle soit d'origine africaine ou pas. Après, j'ai passé à autre chose, et puis c'est tout. Mais si j'avais réfléchi un peu plus, je me serais rendu compte que forcément, déjà d'une part, la consonance africaine du nom de la personne, bon déjà rien que ça, ça allait forcément, enfin d'après ce que je comprends maintenant, hein, la polarisation et les modes de fonctionnement de la twittosphère et autres font qu'on est automatiquement accusé à partir du moindre détail. C'est vrai que là, il y a quand même matière c'est pas évident, quoi, pour me défendre. Moi, je sais très bien que je suis de bonne foi, mais les gens ne peuvent pas forcer de me croire. Mais en plus, je le réalise maintenant, en plus, de toute façon, c'était dans un film qui parlait du racisme. Donc, ça explique certainement pourquoi il y a des gens... Ils veulent pas en démordre, j'ai beau leur expliquer que, ben non, que c'est un malentendu, c'est une bévue, quoi, mais que c'est un malentendu, y a rien à faire. Ils, elles, ne veulent pas en démordre, et surtout, veulent pas discuter. J'ai beau déplier tous les arguments que j'ai, y a rien à faire. C'est fou, quand même. Alors qu'il y a juste un truc. Et franchement, j'ai beaucoup normalement, je devrais pas avoir à me défendre, mais j'ai beaucoup d'arguments. Déjà, si j'étais vraiment raciste, comme il est dit, est-ce qu'il y aurait seulement un tweet? Il y aurait forcément un autre truc quelque part. Ouais, juste une chose. Et le fait que tout ça, c'est la question, c'est les amalgames. C'est-à-dire, on prend un tout petit truc, et ça, on le voit souvent. Hein, moi, j'appelle ça l'accusationnisme. Hein. Les gens prennent un tout petit détail, et à partir de là, ils vont faire une extrapolation en démontrant par amalgame, quoi, par amalgame glissant. Parce que si telle personne, elle a dit ça ou elle a fait ça, alors c'est que forcément, elle est comme ci, comme ça, et que donc, si elle est A, alors forcément, elle est B, mais alors si elle est B, elle est forcément, elle est C, D, etc. Et après, avec ça, on peut faire tout, hein. Après, on arrive au point Godwin, hein, qui consiste à... Le truc, c'est que la théorie de Godwin, c'est que plus une discussion Internet dure, plus il y a de risques que telle personne soit accusée d'être nazie, etc. En plus, c'est d'une stupidité. En plus, des arguments pour me défendre, je les vois maintenant. C'est-à-dire, quand on voit les confusions, les amalgames qui sont faits, là, je lis aujourd'hui, le 13 juillet 2024, dans un tweet, alors ça me fait même de la peine pour elle, parce que là, à ce niveau, de les dévalideuses, les causes des personnes opprimées, que ce soit... femme ou enfin Andy et tout, c'est des justes causes évidemment. Ben, moi je me bats pour ça depuis 10 ans, pour l'autisme. Mais quand on accuse des gens qui sont du même bord, c'est-à-dire du côté des minorités opprimées, et surtout avec des arguments vraiment aussi faibles, parce que dès qu'on creuse un peu, bon, surtout dans la confusion, quoi. Quand je lis que Eric Lucas, c'est-à-dire moi, s'est retrouvé dans la même pièce Odile Morin, bon, déjà, c'est pas vrai, parce que je vis au Brésil depuis 2016. Donc, bon. Mais bref, imaginons. Et que donc, je sais pas quoi, si Odile Morin m'a parlé, donc, alors, comme je suis censé être raciste, donc, si Odile Morin m'a parlé, donc, forcément, elle est raciste aussi, donc, mais c'est vraiment, mais, est-ce qu'il faut dire que c'est débile? C'est tellement débile, franchement. En plus, je trouve même pas les mots. Le plus débile dans tout ça, c'est que quand il y a eu ces histoires d'accusations de racisme contre moi, donc j'ai essayé de me défendre. Penses-tu? Tout ce que je disais, c'était retourné contre moi. Et j'ai, à la fin, j'ai parlé à Odile aussi. Alors il y a certainement des preuves par WhatsApp ou par email, je sais plus, en disant mais enfin mais Odile, enfin pas toi, tu vas quand même pas croire des conneries comme ça. On peut discuter, tu vois, je vais t'expliquer. Non. Ah non, non, t'as eu des propos racistes, c'est donc je te parle plus. Enfin, en résumé, c'était ça. Donc, après, maintenant, je la comprends, en fait. Je comprends cette réaction, parce qu'effectivement, même, imaginons, parce que moi, je considère que c'est une personne intelligente, Odile Morin. Bon, il y a beaucoup de choses qu'elle fait où je suis pas du tout d'accord, mais on va pas tout compliquer. On va juste parler de cette histoire d'accusation de racisme. Mais je me suis dit, bon, elle est intelligente, elle va comprendre. Et à cette époque-là, j'avais pas trop l'impression qu'elle était trop de mauvaise foi. Enfin bref. Et non. Et maintenant, je comprends. Parce que, imaginons, si on avait eu une discussion de plus de, allez, 2 ou 3 minutes, j'aurais probablement pu la convaincre que c'était un malentendu, quoi. Et elle m'aurait peut-être dit, oui, effectivement, vu comme ça, ouais, je comprends. Bon, dans le meilleur des cas. Hein. Sauf que, en fait, je pense qu'elle pouvait même pas faire ça. Parce que même si elle était convaincue de mon innocence, en résumé, ça aurait pas été le cas du reste. Qui, de toute façon, lui aurait dit exactement comme on le voit maintenant. Ah, mais tu discutes avec Eric Lucas, ce sale raciste, ce connard, comme j'ai lu aujourd'hui. Donc, forcément, tu es raciste et tout. Mais non, mais franchement, mais oh, arrêtez quoi, on n'est pas assez. Enfin, même des enfants de 12 ans. Je sais pas, ça vraiment, franchement, hein, je veux pas jeter la pierre ou critiquer trop facilement, mais enfin, si les causes, les nobles causes, les justes causes, elles sont défendues de manière aussi, je veux pas dire pathétique, parce que ce serait un peu méchant, mais enfin, franchement, quoi. J'ai lu aujourd'hui là sur Twitter, il y a quelqu'un qui écrit, mais ressaisissez-vous, quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Avec ce genre d'amalgame qu'on voit aujourd'hui, ah mais Odile, elle était dans la même pièce qu'Éric Lucas, donc je sais pas quoi. Alors qu'en fait, c'est très exactement l'inverse. Elle s'est détachée de moi et de l'Alliance autiste il y a déjà un bon moment, précisément sur la base de ces accusations de racisme. Soit elle en était intimement convaincue que, bon, d'un seul coup, comme ça, boum, Éric Lucas, ah bah il est raciste, ah bah quelle surprise, on s'en serait pas douté. Ou c'est simplement parce qu'elle a des notions de politique, quoi, elle sait très bien que c'est pas bon pour elle d'être avec une personne qui soit est raciste, soit est perçue comme raciste. C'est tout, voilà, t'es touché, c'est comme la lèpre, quoi, ou je sais pas quel truc, la peste, voilà, t'as été touché par l'accusation de racisme, et c'est fini, tu peux plus, c'est indélébile. Alors moi, perso, bon, c'est tellement, ça m'a beaucoup affecté, hein, à l'époque, hein, j'ai fait vraiment, ça m'a vraiment écœuré, ça m'a vraiment blessé, cette histoire. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, je suis tellement écœuré et désabusé, par ce qui se passe dans ce pays, la France, que bon. Mais là, pour le coup, ça me fait presque de la peine pour Odile Morin, parce que se retrouver bloqué dans ces velléités de militantisme, de trucs politiques, bon, après, je ne vais pas entrer dans les détails sur le bien fondé, sur ses véritables objectifs personnels ou pas, mais à cause d'une idée... non, mais franchement, c'est risible, quoi. Enfin, c'est triste, mais c'est tellement débile. À cause d'une sorte d'odeur, en fait, de racisme, la concernant, qui lui collerait à la peau, parce qu'un jour, elle a discuté, enfin, pas qu'un jour, mais plusieurs fois, elle a discuté avec moi, avant de savoir que j'étais censé être raciste, évidemment, mais même comme ça, vous imaginez jusqu'où ça va? Et elle est bloquée dans ces trucs à cause de ça, alors qu'en fait, ça n'existe pas. Alors déjà, non seulement je suis pas raciste, mais en plus de ça, dès qu'elle a su que j'étais touché par cette disgrâce, quoi, elle s'est immédiatement détachée. Mais non, mais franchement, non, mais ça fait mal à la tête, quoi, tellement c'est débile. En plus, je crois bien que dans son association, il y a beaucoup, et de ce que vous m'avez expliqué, il y a beaucoup d'immigrés, enfin de gens, comme on dit en France, qui sont issus de l'immigration, etc. Et ils sont copains, copines, quoi. Enfin, tout ça, c'est vraiment débile de chez débile. Désolé de vous le dire comme ça. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire là-dessus? Après, bon, moi, perso, non, mais franchement, non, mais vraiment, quoi. Non, mais franchement, moi, je suis, non, mais les gens qui veulent absolument me voir, me prêter des, c'est pire que des vices, c'est des, je sais pas quoi, parce que ça les arrange. Tout ce que je peux dire, de toute façon, ça sera forcément retourné contre moi. C'est le cancel culture. Et donc, tout ce que je peux dire, mais je m'en fous maintenant, je m'en fous au point où j'en suis. S'il y a quelqu'un qui écoute encore, quelqu'un qui est de bonne foi, qui n'a pas de préjugés, qui est neutre, je pense qu'il ou elle va se dire que peut-être ce que je dis, c'est vrai, et puis c'est tout. Après, s'il fallait que je trouve des preuves, mais... Moi, je suis paxé depuis 22 ans, depuis le 1er avril... non, pardon, c'est pas 22 ans. Depuis le 1er avril 2004. Donc ça fait 20 ans et quelque chose. Mais je suis paxé avec une personne qui est racisée, comme vous dites. Alors après, s'il faut aller discuter du degré de la couleur, de la peau et tout, alors peut-être elle est pas assez foncée. Alors ça, je sais pas, parce que c'est vraiment dans des domaines absolument... j'ai même plus les mots. Mais en tout cas, c'est clair et net que elle n'est pas blanche du tout. Et bah, j'ai les preuves. Hein. Le Pax, il existe, c'est des preuves. Je devrais pas parler de ma vie personnelle, mais c'est devenu tellement n'importe quoi. Je vis depuis 7 ans en dormant dans le même lit, pas sur le même matelas, parce que c'est même pas un lit, avec une autre personne qui, elle aussi, n'est pas blanche du tout. Je pourrais le prouver facilement. Et alors, mais quand je dis ça, les gens vont toujours me dire, ah mais viens. Thibaut Cornelou m'a fait ça. Il m'a écrit, ah mais tu vas pas me ressortir l'argument de j'ai un ami étranger, j'ai un ami noir ou je sais plus, ou un ami arabe. C'est dans les, je sais plus quel. Alors, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, de toute façon, c'est retourner. J'ai des ancêtres. Moi, quand on regarde dans mon arbre généalogique, ça se voit pas beaucoup parce que ma peau est très blanche, mais quand on regarde dans mon arbre généalogique, c'est sûr, attesté à 100%. J'ai tous les documents, hein, sans aucun problème. Hein. Si un jour je devais... C'est vraiment de la chasse aux sorcières. Si je devais être accusé sur un banc des accusés avec le bûcher qui commence à s'allumer derrière de chasse aux sorcières, aux racistes, où s'il fallait que je me défende et tout, ben, je serais obligé de produire des pièces en disant « Mais regardez, là, j'ai les preuves. » J'ai au moins un ancêtre qui vient de l'Inde, de Pondichéry même exactement, je connais tous les noms et tout. J'ai de la chance parce que mon arbre généalogique, comme j'ai un ancêtre en 1600 quelque chose qui était notaire, déjà ça commence à remonter à très très loin. Et alors bon, c'était un notaire français blanc, excusez-moi, enfin je suis pas responsable. Et où en étais-je? Donc j'ai toutes les preuves, et dans les branches qui sont pas blanches, donc je suis très content d'être issu en partie de branches pas blanches. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas je suis très content. Alors là, il y a toutes les couleurs quasiment, et notamment j'ai des ancêtres de Madagascar et d'Afrique. Et dans mes ancêtres, c'est sûr, il y a les preuves. Hein. J'ai des ancêtres. Alors pardon, je vais choquer certains, mais c'est ce qui est écrit dans ma généalogie, à moi, d'Éric Lucas. J'ai des ancêtres, il y en a au moins deux, si je me souviens bien, où c'est écrit la dame, enfin mon ancêtre, elle est négresse libre. Et pardon, hein, parce que c'est un gros mot, mais c'est ce qui est écrit. À l'époque, pour eux, c'était pas un gros mot. C'est écrit comme ça, négresse libre, c'est-à-dire qu'elle avait été affranchie. Donc je descends d'esclave, bien sûr. Donc, bon, alors je sais que c'est pas un argument non plus. Je sais qu'il y a aussi, il y a des Noirs qui sont racistes contre les Noirs. Mais en tout cas, bon, moi, je n'ai rien à voir avec ces histoires de racisme. Je ne suis pas raciste, c'est évident. En plus, je vis au Brésil. Alors, pour un raciste, alors que je pourrais vivre n'importe où, pourquoi venir au Brésil où la plupart des gens ne sont pas blancs? Mais, enfin, non, mais bon, voilà. Ça fait beaucoup. Voilà, merci. Encore deux, trois détails que je voulais rajouter, que j'ai oublié, c'est que par rapport à l'expression fort malheureuse, deux balles dans la tête, qui est une expression effectivement très violente, il faut arriver à relativiser les choses. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est à prendre littéralement, c'est une expression de révolte, quoi. Hein, une manifestation quand on est horrifié par quelque chose. Par exemple, moi ça m'arrive encore, même malgré cette histoire, ça m'arrive parfois, alors je fais attention à pas l'écrire maintenant, mais de penser des choses comme ça. Mais c'est juste une réaction en fait qui est très forte par rapport à un événement. C'est pas à prendre à la lettre. Il y a plein de choses qu'on dit avec des mots qu'on utilise, donc pour toutes sortes de situations, des mots qui sont très exagérés par rapport qui sont pas à prendre au sens littéral. Quand ça m'arrive encore de penser ce genre d'expression, c'est-à-dire cette réaction de balle dans la tête ou ce genre de choses, c'est pour des choses qui sont vraiment révoltantes, comme par exemple les violeurs d'enfants, quoi, ou même de bébés, ou ce genre de choses. Alors là, par exemple, quand je viens de parler d'un bébé, j'ai l'image qui me vient de quelqu'un qui allait poignarder un bébé dans une poussette dans un parc à Annecy. Alors là, c'est un bon exemple, malheureusement. Alors on peut plus rien dire, alors. Parce que cette personne, qui était vraiment... c'est innommable, il n'y a même pas les mots, qui a fait ça, allait poignarder un bébé sans défense et absolument sans aucune raison, évidemment. Il peut pas y avoir de raison, quoi. Le bébé, il est forcément innocent, dans un parc. Je trouve même pas les mots. Mais c'est sûr que les mots deux balles dans la tête, oui, ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas à prendre au sens littéral, évidemment, parce que même malgré un acte aussi odieux, c'est pas, on n'est pas des barbares, quoi, hein, justement. Il n'y a pas à les mettre deux balles dans la tête au sens littéral du terme, mais c'est une expression une réaction, en fait. Oui, bien sûr, quand on voit une chose comme ça, oui, moi, j'assume penser, oui, ce genre de choses. Cette expression. Et après, on va me dire, ah, mais c'était je sais plus quelle origine d'ailleurs, mais c'était quelqu'un qui était pas blanc, si je me souviens bien. Alors, on va me dire, ah, voilà encore une preuve, il vient encore d'avouer, il a donné encore une preuve qu'il est raciste. Mais c'est n'importe quoi! À un moment, faut arrêter, quoi. C'est vraiment de la grande stupidité, ce genre d'amalgame. Je sais pas, si c'est vraiment, si les gens sont ultra stupide pour penser ça, ou sinon, bon, c'est juste de la mauvaise foi, quoi. Je le répète encore une fois, que la personne qui fait ces choses soit blanche, noire, ou quoi que ce soit un homme, une femme, ou peu importe. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est pas la nature, ou l'origine, ou la forme, ou je ne sais quoi, de la personne. Ce qui compte, c'est ce qu'elle fait. Bah, je sais pas, c'est évident, quoi. On est, je sais pas. Ensuite, pourquoi cette expression? En fait, on m'a dit ça à moi il y a très très longtemps, hein, 1986, je crois. Il y a quelqu'un qui m'a menacé, qui m'a dit deux balles dans la tête, qui était de la même couleur que moi, hein, d'ailleurs, qui était blanc, mais enfin, peu importe, il aurait été noir, je vois pas ce que ça change. Ça devient compliqué, hein, vos histoires, parce que là, je viens de dire, il aurait été noir, alors on va me dire, ouais, tu as Tu appelles, il aurait fallu dire racisé, sauf qu'en 1986, alors, si cette expression n'existait pas, mais alors faudrait que je l'utilise maintenant, ou alors faudrait que je dise, il aurait été un noir, parce que si je dis un noir, on suppose que j'ai mis une majuscule, alors que si je dis il est noir, alors là je parle de sa couleur, donc c'est raciste. Non mais au secours, bah, au secours quoi, ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. On m'a dit, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a menacé, enfin, c'est pareil, c'est pas à prendre au sens littéral. J'avais fait quelque chose qui était maladroit, encore une fois, ce qui arrive souvent d'ailleurs quand on est autiste, et il m'avait dit deux balles dans la tête, ce qui signifiait qu'il parlait de moi et de me loger deux balles dans la tête à moi. Mais c'était évidemment très démesuré, cette chose, hein, de menace, cette perspective, elle était très très démesurée par rapport à ce que j'avais fait. J'avais vu un truc qui était pas adapté. Et ça m'est resté en tête, c'est le cas de le dire. Après, il y a d'autres. Point, par exemple, Bon, cette personne-là de cette histoire, enfin qui avait fait 77 crimes ou enfin délits, je ne sais plus exactement, il se trouve qu'elle a effectivement été abattue par deux balles, il me semble, pas dans la tête. Bon, attends, on va pas entrer trop dans les détails, par les gendarmes en hélicoptère, parce que ce monsieur leur tirait dessus, si je me souviens bien. Bon, alors après, évidemment, c'est un peu facile pour moi de dire, bah, vous voyez. Sauf que bon, ça n'a rien à voir. De toute façon, au moment où j'ai écrit ça, je savais pas. Peut-être que c'est écrit dans le texte, mais je n'avais pas fait attention, mais je savais pas que c'était la fin, le dénouement hein, de cette histoire pour lui. Et même si je l'avais su, ça aurait pas été une justification sérieusement, hein, pour dire qu'il faudrait tuer cette personne avec deux balles dans la tête. C'était une manifestation, une réaction de révolte par rapport à toute cette accumulation de choses qu'il avait faites. Après, si on réfléchit un peu plus loin, quand on se dit, putain, mais quand même, le mec, il a fait 77 conneries, la gendarmerie, je sais pas ce qu'ils font, enfin, depuis un hélicoptère, il leur tire dessus, alors qu'il a quasiment aucune chance. Bon, après, on peut quand même se demander s'il avait pas des problèmes mentaux. Si on part sur cette piste, évidemment, si c'était une personne qui souffrait d'une maladie mentale ou de quelque chose comme ça, effectivement, il n'est pas du tout question cette idée de balle dans la tête et tout, elle est très inadaptée. Sauf que je n'ai pas du tout pensé à ça à ce moment-là. Nous, on défend les personnes handicapées, et y compris les personnes qui ont des problèmes psychologiques, psychiques, mentaux, et tout ce genre de choses. Donc, quelle que soit l'horreur, l'extrême gravité de ce qu'ils peuvent faire, il est évident que la réponse, c'est pas deux balles dans la tête. Mais il faut relativiser, il faut remettre les choses dans leur contexte et ne pas me prêter je ne sais quelle intention. Parce que j'ai lu aujourd'hui sur Twitter que le président de l'Alliance Autiste, dans moi, invite ou appelle à mettre deux balles dans la tête à ce monsieur-là, le criminel. C'est n'importe quoi. Et en plus, l'explication, j'ai jamais appelé. Parce que si j'ai appelé à faire ça, enfin, si j'avais appelé à faire ça à ce moment-là, moi, j'invite toutes les personnes, s'il y en a qui écoutent ça, à aller porter plainte. Mais franchement, c'est pas de la provocation, parce que je suis vraiment sincère. Allez porter plainte contre moi, contre Eric Lucas. Je peux vous donner toutes mes coordonnées, il n'y a pas de problème. Et contre l'Alliance Autiste, parce qu'en plus, il y a un amalgame qui est fait entre ma personne et l'association. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vrai que si une personne est effectivement raciste, bon, il y a quand même de grands risques pour que l'organisation qu'il dirige ait des connotations dans le même genre. Mais pas forcément. Et en tout cas, il y a énormément d'amalgames qui sont faits. Donc moi, je vous dis, si vraiment... Parce que c'est facile d'être toujours dans le flou, d'accuser, d'aller de répondre des choses comme ça, mais de jamais entrer dans les détails, dans les arguments, de toujours refuser les discussions. Et après, comme ça, toute la vie, on peut utiliser cette sorte de terreau, plutôt d'amendement organique, quoi. Bref, donc, allez-y, faites, sérieusement, en ligne, il doit y avoir des trucs pour protester, contre, pour je sais plus quoi, incitation à la haine raciale et tout, me visant. Allez-y, moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, pourquoi j'insiste? C'est parce que ça permettrait enfin d'avoir l'opinion de la justice. Alors, je dis pas que je fais confiance à la justice française, loin de là. Mais ça serait quand même, a priori, un peu plus sérieux que ces procès en sorcellerie, là, qu'on nous fait. Parce que bon, il n'y a pas que moi, il y a pas mal d'autres victimes pas du wokisme, mais des abus du wokisme. Et là, on en voit. Enfin, c'est vraiment un exemple. Donc, parce que bon, ce que j'appelle wokisme, le terme est péjoratif d'ailleurs, le mouvement woke plutôt, il n'y a rien de mal. C'est une bonne chose. Il y a des gens qui profitent de ça, qui ont, selon moi, des frustrations, bon, que je peux comprendre, hein, moi aussi j'en ai eu, mais qui se servent de certains outils, quoi, pour faire ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent à partir de ça, en prenant n'importe quel prétexte, n'importe quelle personne, des faux positifs, hein, comme moi. Je veux pas me victimiser non plus, mais enfin bon, il n'y a pas que moi. J'ai pas mal de témoignages aussi de gens, enfin souvent autistes, qui sont passés dans la même moulinette. Et enfin, c'est quand même assez lamentable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'on devrait plutôt se serrer les coudes plutôt que de se tirer dans les pattes les uns des autres, franchement. Non mais vraiment, quoi, arrêtez. Enfin bon, il y a aussi... Alors c'est vrai que ce malheureux fil, enfin ce tweet, est quand même... a été particulièrement maladroit de ma part. Parce qu'en plus, il y a eu des commentaires, il y a eu de l'humour... effectivement fort mal placé qui s'est invité là-dedans. Et bon, moi je suis assez... je crains pas de faire de l'humour sur toutes sortes de sujets. Et il y a eu des gens qui sont venus dire pourquoi 2 balles, une seule suffit. Alors j'ai rajouté... Ça n'a rien à voir avec les questions de racisme. Ça aurait pu être un mec blanc ou je sais pas quoi qui aurait fait je sais pas quelle saloperie, ça aurait été exactement pareil. Et j'ai rajouté que non, parce qu'on n'est pas sûr... parce que c'est vrai, je connais une personne qui vit avec une balle dans la tête, et une femme à Lyon. Je sais pas si elle est encore vivante, hein, mais bref. En tout cas, quand quelqu'un dans un tweet a écrit pourquoi mettre 2 balles dans la tête alors qu'une seule suffit, on n'est plus du tout en train de penser à la réalité de la personne en question. On est en train de faire des sortes de joutes verbales, ou plutôt de choses enfin intellectuelles, même si elles sont de très mauvais goût, mais c'est que ça reste quand même des choses intellectuelles qui sont pas, en tout cas de ma part, elles sont pas dans le registre du racisme. Après, les autres qui commentent ça, je suis pas dans leur tête. Et il y en a même eu un qui a écrit que c'était de la pollution parce que vous avez du bruit ou du quoi. Enfin bon. Après, bon, dans les discussions, dans les fils, que ce soit, enfin même sur WhatsApp et tout, même je le vois tous les jours, même ici au Brésil. Bon, hein, quand on écrit une connerie, après il y a quelqu'un qui va en rajouter pour aller dans le plus c'est exagéré et plus c'est tiré par les cheveux et plus l'effet enfin, je n'ose pas dire subtil, mais l'effet, enfin, drôle, quoi, est accentué précisément par le côté absolument exagéré. Et ça, c'est les ressorts de l'humour. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé ça. Il y a énormément d'humoristes, on aime ou on n'aime pas, mais qui précisément utilisent ce genre de corde énorme comme ressort. Alors là, c'est vrai que pour le coup, c'était vraiment très mal placé, très maladroit, mais il n'y a rien de raciste du tout. On me croit ou on ne me croit pas, mais la personne, elle se serait appelée Jean-Paul Durand, ça aurait été exactement pareil. Exactement pareil. Sauf que là, effectivement, c'est dans un contexte clairement d'une histoire de racisme et de choses comme ça. Donc forcément, les personnes qui regardent ça, elles sont polarisées, elles sont sensibilisées par rapport à tout ça, ou certainement qu'elles sont dans la lutte, etc., tous les jours par rapport à ça. Donc elles voient les choses avec ce prisme-là. C'est tout. Le problème, c'est que d'un côté, je comprends hein, ces fortes présomptions, mais d'un autre côté, j'ai quand même aussi le droit... à ma bonne foi, et il faudrait que quelqu'un arrive à me démontrer, parce que c'est à ceux qui accusent d'apporter la preuve, qu'ils arrivent à me démontrer que ce que je dis, tout ça, c'est du pipeau, que j'essaye de me défendre et tout, que c'est pas vrai, que je suis bien un sale raciste, et que donc mon association, enfin l'association que j'ai fondée, est forcément raciste, et puis pourquoi pas, enfin, toute ma famille, et puis mon chien, et puis mon pauvre chien qui est mort, et qui était... Alors je sais même pas si je peux... Là je fais de l'humour maintenant. Je sais pas si je peux dire que mon chien était noir, parce que... Mais il avait des poils de couleur noire. Voilà ce que je peux dire. Enfin, en tout cas, c'est... Pour moi, perso, si je dis tout ça, maintenant, au bout de 2 ans, c'est pour... par rapport aux personnes qui s'interrogent, parce que je trouve ça tellement pathétique, je trouve ça tellement lamentable, enfin, pour pas dire minable, pardon, hein, pour les personnes qui tourne comme ça dans une casserole avec un mec de la colle en mélangeant tout, c'est vraiment, mais n'importe quoi, purée, mais comment vous voulez faire de... Bon, Je veux pas faire du jugement, mais enfin, franchement. De toute façon, il y a un truc aussi, c'est que quand on essaye de se défendre et de montrer sa bonne foi, bah, c'est vrai que c'est difficile. Mais puis je suis pas le seul dans ce genre d'accusation. Les autres, les accusateurs et les accusatrices, pour pas dire les inquisiteurs et les inquisitrices, ne veulent pas discuter. Je dirais que ça, quand même, c'est pas une preuve, mais ça tend à montrer la faiblesse de leur thèse, parce que j'ose pas dire argument, il y a quoi. C'est des interprétations. On prend deux mots ou trois qui semblent très fortement dénoter une attitude ou des propos racistes, effectivement. Et à partir de là, on regarde que dans la direction qu'on veut, c'est-à-dire dans la thèse du racisme, et jamais on rejette tout le reste. Bah, je suis désolé, mais enfin, ça va pas, quoi. C'est pas équitable, c'est pas correct. C'est pas sérieux. Et puis ça décrédibilise, en fait, les personnes et les organisations qui fonctionnent de cette manière. Non ?